Il y a 80 ans, s'achevait la Deuxième Guerre mondiale et commençait une période de reconstruction après les années noires de l'occupation. À partir de ces collections, le service des archives départementales de l'Hérault propose une exposition qui vous fait découvrir la réalité de ces années pour les Héroletais d'alors. En partenariat avec le département de l'Hérault, Divergence FM et le collectif des radios libres d'Occitanie vous proposent une visite guidée en deux parties de l'exposition « Vivre la guerre en Hérault 39-45 ». Avec Véronique Sassetti, directrice adjointe des archives départementales, conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition.
Bonjour, je m'appelle Véronique Sassetti Aguilera, je suis conservatrice du patrimoine, adjointe de la directrice des archives départementales de l'Hérault et commissaire de l'exposition « Vivre la guerre en Hérault 1939-1945 », qui est une exposition qui a ouvert ses portes le 20 novembre à Pierre-Vive, au domaine départemental, et qui continuera jusqu'au 9 mai 2026. C'est une exposition qui a obtenu le label 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la victoire, et qui a pour prisme la vie quotidienne des Héroletais et des Héroletaises pendant les années noires. C'est une exposition qui est, se veut en tout cas, essentiellement pédagogique et qui s'organise autour de quatre grandes parties: sauver, survivre, collaborer versus résister et reconstruire.
Sauver puis survivre.
Dans la première partie, sauver avec un point d'interrogation, en parfaite symétrie et en face à face, deux portraits, l'un du maréchal Pétain et l'autre du général de Gaulle, illustrent la notion d'homme providentiel. Il est intéressant de s'interroger sur justement cette notion d'homme providentiel en 1940, au moment de la défaite de la France. Le 17 juin, le maréchal Pétain prononce un discours qui explique aux Français que la France est vaincue et qu'il faut demander l'armistice. En réaction à ce discours de Londres, le général de Gaulle, le 18 juin, prononce sur les ondes de la BBC, ce qui devient le premier acte fondateur de la France libre, l'appel du 18 juin. Les deux hommes se connaissent. Ce sont deux militaires. Ils se sont rencontrés pendant la Première Guerre mondiale. De Gaulle a servi sous les ordres du maréchal. Il a été blessé. Il a été fait prisonnier. Mais il connaît ce militaire qui est d'un peu plus de 30 ans son aîné, pour lequel il éprouve du respect. Le maréchal, lui, a remarqué De Gaulle et lui demande en 1925 d'intégrer son cabinet parlementaire, enfin son cabinet ministériel, pardon, et de l'aider à rédiger un ouvrage. Il se trouve que la génération qui existe entre les deux hommes pose rapidement problème et De Gaulle va quitter le cabinet très vite en 1926. Pour autant, au départ, il y a du respect, beaucoup de respect. La défaite française et le fait que Pétain prenne le parti de déclarer la France vaincue créent la première fracture entre les deux hommes. Il y a donc dans cette première partie une question qui est lancinante pendant ces années de guerre, à savoir si Pétain reçoit les pleins pouvoirs constituants le 10 juillet à Vichy de la part des parlementaires français. Il estime qu'il tire sa légitimité de cette remise des pouvoirs. De Gaulle, lui, s'estime légitime dans le sens où c'est le premier homme qui refuse la défaite, qui refuse que l'Allemagne soit vainqueur. De Gaulle se considère lui aussi comme légitime, alors que le maréchal Pétain le considère comme un traître. Pendant ces années de guerre, la notion de traîtrise va s'inverser. C'est-à-dire qu'en 1944, au moment où la libération de Paris est effective, et même bien avant d'ailleurs, mais au moment où la libération est effective de Paris, Pétain, qui était en Allemagne, revient et est persuadé qu'il va être bien accueilli par les Français qui ont conscience, qui auraient eu conscience qu'il avait tout fait pour limiter les dégâts. Il se trouve qu'il va être arrêté, jugé et condamné pour haute trahison. Le traître n'est plus celui qu'on croit à la fin de la guerre. Il y a dans cette partie des chants, des chansons de la résistance et des chansons aussi du régime de Vichy. Il y a des plaques tactiles qui représentent la Francisque et qui représentent la Croix de Lorraine, de manière à ce que le public malvoyant puisse aussi se rendre compte de comment étaient ces symboles qui ont représenté le maréchal Pétain pour la Francisque et le général de Gaulle pour la Croix de Lorraine, avec bon nombre d'objets assez insolite, un cendrier promotionnel Travail, Famille, Patrie, des cigarettes du maréchal Pétain qui étaient envoyées dans les colis des prisonniers, un sachet de graines envoyé par les jeunes de Pouzol au maréchal Pétain pour qu'elles puissent être replantées. Le maréchal recevait énormément de cadeaux pendant les années noires, énormément de courriers. Les enfants à l'école écrivaient des lettres de vœux au maréchal Pétain. Donc, c'était un homme qui disposait d'une aura alimentée par le ministère de la Propagande importante. Et en symétrie, vous avez de l'autre côté des objets promotionnels aussi de la France libre, avec une pochette d'allumettes qui était produite aux États-Unis, une bague à Rio, une bague Croix de Lorraine à Rio de Janeiro, le foulard de Madame Klostermann, foulard en soie, qui est un foulard de la France libre. Et puis surtout un document émouvant où on demande pour Jean Moulin l'attribution de la Croix de la Libération. Il utilise là un alias qui est le caporal Mercier. Vous avez également deux documents d'espions français qui, en 1944, adhèrent au réseau Mithridate et font allégeance au général de Gaulle. Donc c'est une partie qui a à cœur vraiment d'interroger la notion d'homme providentiel et de montrer à quel point l'histoire a pu s'inverser très rapidement, finalement, en 4 ans.
Suite de la visite guidée de l'exposition « Vivre la guerre en héros » avec Véronique Sassetti, commissaire de l'exposition.
La deuxième partie de l'exposition « Survivre » traite vraiment de la vie au quotidien des héroletés pendant la guerre. Vous commencez par un bureau de l'administration, parce que Vichy, c'est une administration pléthorique, productive, et en tout cas une administration de contrôle et de censure. Donc, il s'intéresse à tous les aspects de la vie, notamment la jeunesse, en créant des organisations et des recensement en fait de jeunes pour pouvoir embrigader au plus vite les Français. Donc il y a, on parle évidemment des chantiers de la jeunesse française qui, le service militaire est aboli, hein, bien évidemment. Donc là, on recense les jeunes et on les envoie faire les chantiers de la jeunesse. Donc c'est une sorte de service militaire civil, on va dire, où les jeunes font des travaux d'intérêt généraux. Donc ils vont couper du bois, ils vont travailler au bord des routes. Et c'est une manière de contrôler ce qu'ils font et de les occuper. Parce que quand les jeunes sont occupés, ils n'ont pas de mauvaises idées. Il y a aussi les Compagnons de France, qui est une association qui est sous le patronage du maréchal et qui s'occupe qui s'occupe des jeunes également dans le cadre de récupération de papiers, de ramassage de vieux papiers, de ramassage d'objets. Voilà, c'est toujours une manière de garder la jeunesse sous contrôle. Il y a aussi l'évocation de la dureté du régime de Vichy, avec un cas particulier, celui de Marie Coste. Marie Coste, c'est une personne qui travaille à la Croix-Rouge dans le Biterrois. Elle travaille à la fabrication, la conception de colis pour les prisonniers de guerre. Une première fois, Marie Coste, elle est surprise avec du sucre dans les poches. Elle explique qu'un colis s'est éventré et que le sucre a été vidé par terre et qu'elle en a récupéré. Bon, d'accord. Quelques temps après, on la surprend avec un paquet de biscuits. Un paquet de biscuits reconnaissable, puisque c'est un paquet de biscuits des colis de prisonniers. Et on lui fait signer des aveux écrits qui sont présentées dans l'exposition. Et elle, elle explique, en fait, c'était pas du tout pour le vendre, elle n'a pas de pain, elle a faim. Ce paquet de biscuits, elle n'a pas pu résister. Elle va prendre 4 ans de prison pour un vol de paquet de biscuits dans un colis de prisonnier. Donc la dureté du régime de Vichy, c'est même au niveau, on va dire, le plus banal de la vie quotidienne, ça existe et Vichy sanctionne et ne pardonne pas. Vous passez ensuite dans une partie qui est consacrée à l'absence des hommes, que ce soit parce qu'ils sont prisonniers de guerre en Allemagne, ou alors parce qu'ils sont partis travailler en Allemagne dans le cadre de la relève ou dans le cadre du service du travail obligatoire. Donc, les prisonniers de guerre en 1940, au moment de l'armistice, l'Hérault décompte un peu plus de 2200 prisonniers de guerre. Le chiffre va sans cesse évoluer parce que c'est très compliqué d'avoir des chiffres bien arrêtés dans cette période-là pour des hommes qui sont en Allemagne. Ces prisonniers de guerre, ils occupent l'esprit de toutes les familles à qui ils manquent. Et là, il y a encore un outil de propagande vichyste, la Légion française des combattants, qui s'occupe vraiment de la solidarité pour les prisonniers de guerre et qui délivre la bonne parole du maréchal. Donc ils vont visiter les familles, ils vont essayer d'obtenir des aides, alors d'envoyer des colis pour les prisonniers, toujours en expliquant que c'est le maréchal qui le permet. Vous avez la mise en place de loteries, la mise en place de livrets du prisonnier, la mise en place de l'heure du prisonnier. Les entreprises, les salariés pouvaient décider de donner une heure de leur temps de travail, la rémunération d'une heure de travail pour les prisonniers de guerre. Donc vraiment une solidarité qui s'organise avec la vente d'objets promotionnels. Il y a un cendrier en cristal d'arc à nos prisonniers. On le vendait et cet argent allait aux prisonniers. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie de Sète aussi qui a envoyé des colis aux prisonniers qui étaient commerçants. La relève, c'est un système qui est mis en place pour essayer de faire revenir les prisonniers. Donc sur la base du volontariat, on pouvait partir travailler en Allemagne et pour 3 personnes qui partaient dans le cadre de la relève, un prisonnier de guerre était censé revenir. C'était homme ou femme, indifféremment. Ça a plutôt mal fonctionné. Même si des héroletés ont fait le choix de partir en Allemagne, c'est pas forcément un choix par idéologie. Ils n'étaient pas forcément favorables à l'occupant, enfin en tout cas aux Allemands. Eux, ce qui les intéresse, c'est soit d'avoir une rémunération garantie parce qu'ils sont une charge pour leur famille et que leur famille n'arrive pas à vivre. Donc, ils partent travailler en Allemagne parce que c'est plutôt bien payé. Soit, ils essaient d'échapper à une condamnation. Donc là, ils se disent, plutôt que j'aille en prison, je suis volontaire pour aller travailler en Allemagne. Soit, effectivement, ils peuvent y croire en se disant oui, je vais aller travailler en Allemagne parce que c'est le sens de l'histoire, il faut que je m'adapte. Il y a d'ailleurs des facsimilés dans l'exposition qui présentent des brochures et notamment une brochure qui s'appelle « Travailler, vivre en Allemagne ». Quand vous regardez cette brochure, vous pouvez la consulter. Eh bien, quand vous la regardez, vous ne pouvez être que convaincu par le fait que ça doit être très très bien. Donc la propagande, elle est quand même très bien faite. L'idée, il y a quand même un avertissement sur la couverture, en expliquant que c'est un document qui a été fait dans le cadre de la propagande de Vichy, pour que personne ne pense que nous faisons la publicité pour aller travailler en Allemagne. Non, l'idée, c'est que vraiment, les gens n'aient vraiment pas de doute sur ce qu'ils ont dans les mains, c'est-à-dire un véritable outil au service de l'État français. La relève ne fonctionnant pas, en 1943, est élaboré ce qu'on appelle le service du travail obligatoire. Le service du travail obligatoire, c'est un recensement, en fait, des jeunes, comme la conscription, la même chose, on recense les jeunes. En fonction de l'âge, eh bien, on leur dit, tu vas devoir aller travailler en Allemagne pendant une année, pendant 2 années, voilà, en fonction des évolutions et des besoins, surtout de l'Allemagne. Donc, vous avez le registre de recensement de Georges Brassens, qui est présenté dans l'exposition. Brassens, il est appelé pour aller travailler au STO, et Il a quand même causé au préalable quelques difficultés à sa famille. Il était un peu turbulent, jeune. Donc il se dit, autant que je parte en Allemagne, je ne vais pas causer plus de problèmes à ma famille. Donc il part au STO. Et à l'occasion d'une permission, il rentre en France. Il n'en repartira pas. Il déserte, en fait. Et il va passer un peu plus d'une année à Paris, chez un couple, chez Jeanne, notamment. Voilà, donc, et il aura l'idée de commencer à écrire des chansons, et la canne de Jeanne, notamment, est une allusion vraiment à ces années-là. Donc, vous avez aussi des enregistrements pour les personnes malvoyantes, des enregistrements de lettres de prisonniers de guerre à leurs épouses, à leurs familles. Le cas de Marcel Bru et le cas de Pierre Cross. Marcel Bru ne reviendra pas de captivité. Pierre Cross, lui, quand il est fait prisonnier, sa femme est enceinte. Et il apprend qu'il est papa d'une petite fille. En 1944, pour la dernière lettre, qui est une lettre de soutien à son épouse, on comprend que cette petite fille est morte. Donc cet homme, qui est nommé pendant sa captivité instituteur à Frontignan, cet homme n'aura jamais connu son enfant. Et c'est ça aussi la vie quotidienne pendant les années noires, c'est vivre l'absence vraiment de ceux qui ne sont pas là. Dans l'exposition, vous entrez aussi dans un salon des années 40, où vous avez beaucoup d'objets, notamment une radio TSF qui diffuse des chansons sur l'absence des hommes, justement. Les années noires ont été des années de création artistique, et que ce soit Lise Gotti, Léo Marjane, ce sont des interprètes qui ont chanté les femmes dont le mari était prisonnier. Vous avez des chaussures avec des semelles en bois, et là aussi il y a eu des chansons sur les semelles en bois. Notamment Maurice Chevalier, que vous pouvez entendre aussi. Et puis vraiment des objets du quotidien, des tickets de rationnement, des assiettes de propagande pour le maréchal Pétain. Vous avez également des cartes de priorité de mère de famille et puis des gravures de topinambour, rutabaga et chicorée. La chicorée étant un succédané du café, tout simplement, qui n'était pas cultivé dans l'Hérault, mais que vous pouviez parfois trouver sur les étals, rarement d'ailleurs, et le café était souvent remplacé par des glandes de chêne moulues. J'avoue que ça laisse pensif aujourd'hui de se dire qu'on pouvait moudre des glandes de chêne pour essayer d'en faire du café. Je pense que ça ne devait pas être trop terrible. Voilà, avec des outils de propagande, hein, vous avez une ardoise Travail, Famille, Patrie pour les écoliers, un cahier d'écoliers où il était écrit « Vive Pétain ». La propagande était partout. Et mais quand même, quand vous ouvrez des tiroirs, vous vous rendez compte que dans ces tiroirs un peu secrets, du buffet notamment, vous avez « Le silence de la mer » et « La marche à l'étoile » de Vercors en édition clandestine aux éditions de minuit. Et puis vous avez aussi une lettre, la lettre de René, qui est un jeune homme requis au service du travail obligatoire et qui explique à sa mère qu'il est parti. En fait, il lui dit « Quand tu te lèveras, je serai loin, je pars avec des copains. Si je peux te donner de mes nouvelles, je t'en donnerai. Je prends 1000 francs et les deux pièces en or qui étaient dans le tiroir. » Et ne te fais pas de soucis pour moi. Et puis, prends soin de toi. La vie pendant les années noires, c'est aussi ça. C'est des situations individuelles et personnelles qui, justement, expliquent l'attentisme, quelque part, des Français. Vichy, c'est aussi les peurs et discriminations. Vous avez vraiment l'explication par quelques documents choisis des révisions de naturalisation. C'est-à-dire que l'État français va réviser les attributions de la nationalité française et rendre des gens apatrides parce qu'elle ne les estime pas dignes d'être français, notamment les juifs, notamment certains espagnols républicains. Il va tout contrôler, en fait, l'état de Vichy, jusqu'aux lois antisémites, vraiment, où 1940, le statut des juifs, et 1941, l'obligation de recenser les juifs. On ne rafle jamais aussi bien que les gens qu'on a recensés. Avec de la propagande, avec l'obligation d'inscrire la mention juif sur les cartes d'identité. Et puis vous avez un dispositif sonore pour les personnes malvoyantes, le PV de la préfecture d'organisation des rafles d'août 1942 dans l'Hérault, où il est clairement indiqué, évidemment, les Allemands ne sont pas en zone libre à ce moment-là, ils arrivent en novembre 1942, c'est l'administration, la police et la gendarmerie française qui organisent ces rafles. Donc, on explique que ça se passera très tôt le matin pour éviter que la population ne soit trop émue de voir des familles embarquées, parce qu'il y avait eu au mois de juillet déjà la rafle du Veldiv à Paris et qu'on avait pu mesurer ce que ça pouvait donner comme réaction, en tout cas au sein de la population, que les personnes pouvaient emporter leurs bijoux, leur argent, leurs valeurs, et qu'une fois arrivées en camp, notamment à Drancy, ils pourraient les donner à une personne de confiance, avec quittance, parce qu'une fois parti en Allemagne, il ne pourra apporter que 30 marks. Et tout ça est vraiment clair, cadré, précis, comme sait le faire l'administration de Vichy. On présente aussi trois situations. Celle d'une entreprise, la ruche du Midi à Béziers, qui a été spoliée pendant la guerre. William Stern, qui est un médecin qui a été arrêté, déporté à Auschwitz, dont il ne reviendra jamais. Et un multimédia sur Sabine Zlatin, puisque la colonie des enfants de Dizieux prend naissance dans l'Hérault, avec la colonie des enfants de Palavas. Et ce multimédia raconte son histoire.
Nous vous avons proposé une visite guidée de l'exposition « Vivre la guerre en Hérault 39-45 » en compagnie de Véronique Sassetti, directrice adjointe des archives départementales, conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition. Cette exposition est gratuite et accessible à toutes et tous et vous pouvez la découvrir jusqu'au 9 mai 2026 dans les locaux du domaine départemental Pierre Vive à Montpellier. Merci à Madame Sassetti pour sa disponibilité. Un programme réalisé par Divergence FM et le collectif des radios libres d'Occitanie en partenariat avec le département de l'Hérault.